122. Le psaume 122. Il y a quelques semaines, j'ai parlé sur le psaume 120 et 121. Et ce matin, j'aimerais parler du psaume 122 et 123. Deux psaumes. Il s'agit d'une quinzaine de versets en tout, donc ne vous affolez pas. Et ces psaumes font partie de ce qu'on appelle les cantiques des montées, les cantiques des degrés, ou les psaumes des pèlerins. Dans votre Bible, vous avez certainement un titre inspiré du Saint-Esprit qui explique les titres de ces psaumes. Il y a 15 psaumes en tout qui font partie de cette catégorie. Et ces psaumes étaient chantés par le peuple de Dieu lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem. Le sabbat, mais surtout pendant les grandes fêtes pendant l'année. C'est-à-dire la fête de la Pâque au printemps, la fête de la Pentecôte en été et la fête des huttes en automne. Le peuple de Dieu s'est déplacé des quatre coins du pays pour se rendre à Israël pour louer le Seigneur. Et en route, ils chantaient ces cantiques. Troisièmement, quatre de ces cantiques, 4 sur 15, sont attribués à David. Un a été écrit par Salomon et une dizaine sont plus ou moins anonymes. Il n'y a pas de nom, en tout cas pas de signature d'auteur. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ces psaumes ont été chantés? Eh bien, comme je viens de dire, en partie pour préparer les gens à venir adorer Dieu, parce que les Juifs autrefois savaient que pour venir au temple, il n'y avait pas de bouton on-off quand on arrive au temple. On appuie on et puis on loue le Seigneur. Non, il fallait préparer son cœur. Et je pense que c'est un bon principe pour nous d'ailleurs, quand on vient au culte. Est-ce que dès qu'on franchit la porte, on appuie sur « on » et puis on a un cœur débordant de joie? Ou est-ce qu'on devrait plutôt se préparer avant de venir? En tout cas, dans ces psaumes, il y a 3 thèmes qui sont abordés. Il y a d'abord les afflictions et les souffrances du peuple de Dieu. Il y a le thème aussi de la protection de l'Éternel, le fait que Dieu montre sa tendresse et sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Et le troisième thème, c'est l'idée de la bénédiction que Dieu accorde à ceux qui vont au culte. Et que c'est une grâce de faire partie du peuple de Dieu et de pouvoir se rendre dans un culte pour louer le Seigneur. Je disais il y a quelques instants qu'il y a 15 cantiques des montées. Alors, selon certains historiens, il y avait peut-être 15 marches pour monter au temple. Et selon certains, ils ont dit, mais j'imagine que les gens chantaient un cantique sur chaque marche pour monter vers le temple. Mais vous vous imaginez l'embouteillage. Le fait de chanter un cantique, on monte une marche, un cantique, le culte n'a jamais commencé à 10 heures. Donc je pense que c'était des chants que les gens chantaient parce qu'ils voulaient préparer leur cœur pour adorer Dieu. Alors ce matin, nous allons lire d'abord le psaume 122. Et je lis dans ma Bible à la colombe, le psaume 122. Cantique des montées de David. Je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Comme témoignage pour Israël afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demande la paix de Jérusalem, qui vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères, de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Nous allons lire le psaume 123 dans quelques instants. Alors, ce psaume, eh bien, c'est David qui l'écrit. qui est écrit pour le peuple de Dieu, qui va se rendre dans la ville de Jérusalem. Et si on veut regarder ce psaume dans un premier sens, on peut dire, mais pourquoi est-ce que David a écrit ce psaume? Parce qu'il parle de la ville de Jérusalem, qui est mentionnée dans la moitié de ses cantiques des montées. Une belle ville, une ville dont David était fier, une ville où toutes les tribus se rendaient. Donc c'était un lieu de rencontre pendant ces grandes fêtes de l'Éternel. C'était une ville où la justice était rendue. Il est question de la justice dans ce psaume. Dans la ville de Jérusalem, il y avait le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation, tous réunis. Une ville de justice. C'était aussi un lieu de paix et de tranquillité. Et David dit, priez que la ville reste dans la paix, que la tranquillité puisse caractériser notre ville. Et c'était aussi la ville où les gens se rendaient pour aller au culte. Alors, en ce qui nous concerne, il y a des messages beaucoup plus profonds que cela. On ne va pas parler de la justice, vraiment, mais on va parler du fait que dans ce psaume, le psaume 122, il y a deux thèmes principaux. Du verset 1 au verset 5, il est question de la joie. Et du verset 6 au verset 9, il est question de la paix. Deux thèmes, la joie et la paix. Joie et paix ensemble. Ça vous rappelle quelque chose? Où est-ce qu'on voit la joie et la paix ensemble dans un verset dans le Nouveau Testament? Les Galates, précédés par l'amour, la joie, la paix, le fruit du Saint-Esprit. La joie et la paix sont deux grandes bénédictions que chaque chrétien peut connaître et dont il peut jouir. En même temps, la joie et la paix sont deux cibles privilégiées du diable qui utilise tous les moyens pour enlever notre joie, pour enlever notre paix. Et si jamais le diable arrive à m'enlever ma joie et ma paix, eh bien, je peux vous dire que mon témoignage va en prendre un coup, ma motivation va en prendre un coup, ma confiance en Dieu va être secouée, ma confiance en moi-même va être secouée, et mon visage risque de refléter que je n'ai plus de joie et que je n'ai plus de paix. Alors, sachez que le diable va tout faire pour enlever votre joie et votre paix. Et si vous êtes arrivé au culte ce matin avec peu de joie et peu de paix, eh bien, si vous avez des oreilles pour entendre, je vous invite à entendre. Le psalmiste dit, la joie est là, elle est en moi. Versets 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi est-ce qu'il est dans la joie? Eh bien, d'abord parce qu'il va aller au culte. Je suis dans la joie quand on me dit, d'ailleurs c'est un cantique qu'on chante parfois, Maranatha. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il était dans la joie parce qu'il allait au culte. Pour lui, aller au culte n'était pas une corvée, n'était pas une obligation, ce n'était pas un devoir, c'était une joie. Je suis réjoui, je suis heureux parce que je vais au culte. Deuxièmement, il ne va pas au culte seul. Il va être avec des frères et des sœurs. Il en parle. Il va être avec des amis. Quel privilège d'avoir des frères et des sœurs en tant que chrétien. Allons à la maison de l'Éternel. Il va avec d'autres. Troisièmement, il est dans la joie parce qu'il va louer le Seigneur. Aller au culte, c'est une chose. Être avec des frères et sœurs, c'est autre chose. Mais aller au culte avec des frères et des sœurs pour louer Dieu, c'est encore mieux. Est-ce que vous êtes venu ce matin pour louer le Seigneur? Ou est-ce que vous êtes là juste parce que vous aimez bien être avec des copains et des copines? Adorer Dieu est un concept qu'on rencontre dès le début de la Genèse, et dès le début du Nouveau Testament. Dans Matthieu 2, verset 2, nous lisons les mages qui arrivent. Ils disent, nous avons vu son étoile dans l'Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Celui, le roi qui vient de naître, le fils de Marie. On est venus pour l'adorer. Et plus loin, chapitre 2, verset 11 de Matthieu, nous lisons, ils se prosternèrent, ils adorèrent Jésus. Adorer le Seigneur. Dans ce psaume, verset 3, vous avez peut-être remarqué que, au verset 4, que adorer Dieu, eh bien, cela fait partie de notre témoignage. Que si nous adorons Dieu, eh bien, cela fait de nous des témoins. La même pensée se trouve dans les propos de Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Lorsque chaque fois que vous prenez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. David dit ici, le fait de venir au culte est un témoignage. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le fait de prendre la scène, c'est un témoignage. Dans le fait que vous soyez là ce matin, vous êtes des témoins. On a parfois du mal à témoigner verbalement et à dire des choses. Mais le fait de venir, c'est déjà un témoignage. David dit ici, c'est un témoignage pour tout le pays, pour Israël, le fait de célébrer Dieu. Parfois, nous avons du mal à témoigner, mais le fait d'être au culte, c'est déjà un témoignage. Tout ça pour dire que nous n'avons pas besoin d'un master en communication et un discours public pour être un témoin de Jésus-Christ. Nous pouvons témoigner par ce que nous faisons et pas seulement par ce que nous disons. La joie est là. Elle est en moi, dit le psalmiste. Mais il dit aussi, la paix est là. Et la paix, elle est en moi. Versets 6, 7, 8 et 9. Dans ces derniers versets, le psalmiste parle de la paix, mais il encourage les gens à prier pour la paix. À prier pour la paix de Jérusalem. À prier que la paix et la sécurité soient dans la ville même de Jérusalem. Et nous sommes souvent exhortés, depuis ici même, et même ce matin, à prier pour la paix dans nos pays, sur notre continent et dans nos villes, parce qu'on a besoin de cette paix. Au verset 5, 6, 7, 8 et 9, il est question de la paix et de la tranquillité à 5 reprises. Et surtout la paix et la tranquillité parmi les croyants, parmi les chrétiens. Alors, je ne sais pas s'il vous arrive de prier pour votre église ou pour vos frères et sœurs. Si vous êtes en panne de sujet de prière, comment est-ce que je prie pour telle personne, pour telle personne? Eh bien, vous pouvez toujours prier, Seigneur, je prie que elle, qu'il puisse avoir ta paix. Ta paix dans son cœur. Ta paix dans leur cœur. Malgré les circonstances pénibles qu'ils peuvent connaître, Seigneur, donne-lui, donne-leur ta paix. Nous pouvons faire nôtre les mots du psalmiste ici. Que la paix soit en vous, dans tes remparts, dans tes donjons. Nous n'avons peut-être pas de remparts, nous n'avons peut-être pas de donjons chez nous. Mais l'idée, c'est d'avoir la paix partout où nous sommes. Il y a des gens ici ce matin, certainement, qui ont besoin d'une paix. Une paix profonde. Qui ont besoin d'une certaine tranquillité, qui ont besoin de la sécurité, du calme, de la sérénité, du repos, des quiétudes, de chut. On a besoin de dire chut à tout ce qui nous trouble. Eh bien, prions les uns pour les autres, que nous puissions avoir cette paix, quelles que soient nos circonstances. Et si nous avons la joie de Dieu et la paix de Dieu, nous connaîtrons le bonheur de Dieu dont il est question au verset 9. Je prie pour ton bonheur. La paix, la joie et le bonheur. J'oserais même dire que parfois un chrétien peut perdre la paix parce qu'il s'oppose à ce que Dieu veut dans sa vie. Dans Matthieu 3, nous lisons au sujet de Jean-Baptiste, et il est écrit, Jean-Baptiste s'opposait à Jésus. Vous vous rendez compte? Oser s'opposer à Jésus. Et puis, quelques versets plus loin, dans Matthieu 3, il est écrit, Jean-Baptiste ne résista plus à Jésus. Et Jean a accepté de baptiser Jésus. Mais parfois, un chrétien peut perdre sa paix parce qu'il s'oppose à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et si c'est votre cas, eh bien, je vous encourage à en parler avec quelqu'un de confiance et à solliciter la prière pour que Dieu puisse vous donner sa paix. Shalom, en vous et autour de vous. Parfois, le diable se sert même des chrétiens pour enlever la paix chez un autre chrétien. pour semer la pagaille, pour troubler des cœurs. Et j'ai des exemples à l'appel, malheureusement. Je pense à quelqu'un, un ancien d'une église, il y a quelques mois, qui m'a appelé tard un samedi soir, très découragé. Il n'était pas dans la joie pour aller au culte le lendemain matin, je peux vous le dire. Il a dit, David, un frère de l'église nous a écrit un long email pour critiquer, décrier, descendre, condamner tout ce qui s'est fait dans notre église. Et David le comble, c'est dans le dernier paragraphe de ce mail, ce frère a dit, je vous dis ces choses, mes frères, mes amis, afin de vous encourager dans le Seigneur. Tu te rends compte, on peut dire n'importe quoi parfois. Eh bien, ce cher frère, on a passé du temps au téléphone parce qu'il était découragé. Parce qu'un frère l'avait attaqué de manière injuste. Et le frère était en train de démolir. Vous savez, c'est l'œuvre de Satan de démolir. Et c'est l'œuvre de Dieu de bâtir. De bâtir, de construire. Je vous lis quelques extraits d'un chant dont j'aime l'Éternel, de Noël Colombier, basé sur une prière de François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Être un ouvrier de paix, eh bien, c'est une décision intentionnelle que nous devons prendre. Être un bâtisseur d'amour, c'est une décision intentionnelle que nous devons prendre. Est-ce que vous êtes pour la paix ou est-ce que vous êtes pour la guerre? C'était le thème d'une partie du psaume 120 que nous avons vu il y a quelques semaines. La joie et la paix, le psaume 122. Regardons maintenant le psaume 123, très court. Le psaume 123, cantique des montées. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi, Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous... Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries des satisfaits et du mépris des hautains. Voilà un psalmiste qui souffre. Il souffre. Et dans ce psaume, il parle de ses yeux, de ses besoins, et il parle de la main de Dieu et de la grâce de Dieu. Si vous voulez faire une étude intéressante dans le livre des psaumes, relevez chaque allusion à la main de Dieu et aux yeux de Dieu et aux oreilles de Dieu. Et vous serez vraiment encouragé et béni en relevant ces allusions aux mains de Dieu, aux yeux de Dieu et aux oreilles de Dieu. Rien que dans les psaumes. Ici, il est question des yeux de David et de la main de Dieu. David se compare à des serviteurs, des esclaves. Vous savez, un serviteur ou un esclave doit toujours avoir les yeux fixés sur le maître. Parce qu'avec un geste de la main, le maître peut donner un ordre. Et si le serviteur ou l'esclave ne regarde pas la main du maître, s'il ne regarde pas le geste et l'ordre qu'il reçoit par un geste de la main, eh bien ça peut être la mort certaine, immédiate, pour désobéissance. Et David ici se compare à ce serviteur, à cet esclave. Et il regarde la main de Dieu, non pas par peur, mais par amour. Parce qu'il sait que la main de Dieu peut communiquer beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être la prière de Jabez dans un Chronique 4, verset 10, qui dit, « Seigneur, que ta main soit sur moi. » Et David, il est conscient que... Pardon, je dis David, ce n'est pas David qui a écrit ce psaume, excusez-moi. Le psalmiste, il est conscient qu'il doit regarder Dieu, malgré ses circonstances, et s'attendre à lui. Nos yeux se tournent vers ta main. Ensuite, il parle de nos besoins. Nous sommes dans le besoin. On est trop entouré par des gens qui ne sont pas intéressants ou qui sont souvent intéressés. Ils se savent entourés par des gens orgueilleux, égoïstes, des gens qui étaient sûrs d'eux-mêmes, qui étaient confiants dans leur prospérité, qui étaient hautains, arrogants, prétentieux, qui aimaient faire le pan. Et vous savez, heureusement qu'on a tellement évolué que ces gens-là n'existent plus en 2016. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut toujours être d'accord avec les prédicateurs, sauf quand il dit des bêtises. Quand il dit des bêtises, il faut l'interrompre. Bien sûr, on est exactement comme ce qui est écrit il y a 3000 ans, sinon pire. Le psalmiste était entouré par ces gens-là et disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais survivre dans ce monde pourri, avec ces gens tordus autour de moi? Eh bien, il a compris que dans le besoin, dans ces moments de découragement, quand il était à bout, il fallait qu'il lève les yeux vers le ciel, vers celui qui siège dans les cieux. Dieu n'est pas seulement au ciel, mais il siège sur le trône de l'univers, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et ce n'est pas par hasard qu'il est question de celui qui siège dans les cieux dans ce texte. Le psalmiste savait que Dieu était souverain et il voulait lever ses yeux vers lui. Et dans nos moments de découragement, au lieu de regarder autour de nous, au lieu de regarder à l'intérieur dans notre propre cœur, levons nos yeux plus haut. Regardons vers le Seigneur. Vous savez, notre vie de chrétien a commencé avec un regard vers le Seigneur. Notre vie de disciple doit se vivre tous les jours avec un regard vers le Seigneur. Et j'espère que notre vie de disciple va se terminer avec nos yeux vers le Seigneur. Vous savez, on dit qu'une taupe n'ouvre jamais ses yeux jusqu'à ce qu'elle meure. Et quand elle meurt, elle se met sur le dos, elle ouvre ses yeux, elle regarde vers où? Eh bien, pendant notre vie, heureusement, nous avons les yeux ouverts. Mais regardons là où il faut et ne regardons pas là où il ne faut pas. Sinon, découragement, déprime, désespoir. Mais si on regarde vers le Seigneur, eh bien, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Nos yeux, sa main. Nos besoins, sa grâce. Son intervention. Il est sous-entendu dans ce psaume que Dieu n'intervient pas tout de suite. Parce qu'il dit, jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Parfois Dieu intervient tout de suite. Parfois Dieu intervient plus tard. Parfois beaucoup plus tard. Mais nous devons lui faire confiance jusqu'à ce qu'il intervienne. Quel que soit nos circonstances. Les moqueurs, la moquerie, ça peut nous arriver d'être face à des moqueurs, d'être face à du mépris. Parfois, il vaut mieux se taire. Parfois, Dieu nous donne une parole de sagesse pour la personne en face. Il y a quelques années, un évangéliste qui avait l'air de prêcher en plein air est arrivé dans une ville. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Et il y avait un moqueur dans la foule. Et chaque fois que le prédicateur voulait développer un point ou expliquer la mort de Jésus, le moqueur l'interrompait. Le moqueur se moquait de lui et essayait de faire rire la foule. Et à tel point que l'évangéliste est resté calme. Et à un moment donné, il s'est adressé à ce cher monsieur dans la foule. Et il lui a dit, « Monsieur, vous ne voulez pas que je parle de Jésus. Vous ne voulez pas que je parle de la Bible. Vous ne voulez pas que je parle de Dieu. Eh bien, de quoi voulez-vous que je parle ?» Et le moqueur a dit, « Rien. Ne parlez de rien. Monsieur, parlez de rien. » Alors, l'évangéliste a dit, « D'accord, je ne parlerai de rien. » Dans la Bible, il est écrit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans la Bible, il est écrit que rien est impossible à celui qui croit. Dans la Bible, il est écrit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. La Bible dit, rien, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en emporterons rien. Et la Bible dit que je suis un pécheur et en moi n'habite rien de bon. Romains 7. Le monsieur, c'est... il vient clouer la bec. Quelques semaines plus tard, il est revenu dans la ville et il a pris la parole, cet évangéliste, le moqueur n'était pas là ce jour-là. Il a dit, vous savez, il y a quelques semaines, j'ai parlé ici et on m'a demandé de parler de rien. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose. Quelque chose de vrai. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Quelque chose de formidable. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quelque chose de beau. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Quelque chose d'important. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne nous décourageons pas devant ceux qui ne veulent pas nous écouter, devant ceux qui veulent nous défoncer, nous descendre. Parfois, comme je disais, ne répondons rien. Parfois, prions que le Seigneur nous donne la sagesse. Mais quelles que soient nos circonstances, que nous ayons la joie, ou que nous ayons la paix, ou que nous n'ayons très peu de paix et de joie, et dans nos difficultés, je vous encourage à lever les yeux vers le Seigneur, à lui faire confiance et à vous attendre à lui. Et il interviendra, d'une manière ou d'une autre, en son temps, à sa manière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces psaumes qui sont tellement pratiques, écrits par des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Seigneur, nous te prions de sonder nos cœurs pour que nous puissions vraiment avoir envie de te faire confiance, quelles que soient nos circonstances. Tu vois, Seigneur, que parfois la joie s'en va ou la paix s'en va. Nous te prions de nous remplir de la paix avec Dieu et de la paix de Dieu en ce moment même et de nous donner la joie qui vient du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître les tactiques du diable qui veut enlever notre joie, notre paix, afin que nous puissions résister. Et Seigneur, si nous résistons à ta volonté, à ton œuvre dans notre vie, aide-nous à nous soumettre à ta volonté, afin de pouvoir marcher avec ta joie et ta paix dans notre cœur. Nous te confions cette journée. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec nos yeux tournés vers le ciel et aide-nous à rayonner de ta joie. Amen.